Bonjour, vous êtes bien sur le 895 de Dio, dans l'émission mensuelle du Grémoz, groupe de recherche et d'études sur les mémoires du monde ouvrier stéphanois. Frédéric à la technique, avec aujourd'hui avec nous dans le studio Jean-Paul Bentière.
Bonjour.
Et Jean-Michel Stenner.
Bonjour.
Et dans la continuité donc des émissions précédentes, nous poursuivons aujourd'hui donc avec la diffusion commentée des interventions enregistrées lors de notre journée d'études du 29 novembre 2013, journée d'études intitulée « Penser à agir face à la crise dans les années 68, les luttes ouvrières dans le bassin stéphanois 1963-1984 ». Et aujourd'hui, nous allons commencer avec le commentaire de l'intervention de Daniel Durand, diffusé lors de la dernière émission, donc que vous pourrez retrouver sur le site. On va mettre l'enregistrement bientôt en ligne. Je laisse la parole donc à Jean-Michel qui va nous commenter cette intervention.
Oui, bonjour. C'est effectivement peut-être un petit peu étrange, mais la dernière fois, nous avons été débordés par le temps et par l'actualité sociale aussi. Et je n'ai pas eu le temps de terminer quelques remarques que je voulais faire sur l'intervention de Daniel Durand. Daniel Durand, donc, qui a présenté une intervention sur la Fédération de la Loire du PCF face à la crise du bassin 1963-1983. Cette intervention était donc tout à fait dans les cadres que nous avions fixés. Alors, Daniel Durand, un petit peu comme moi, il a été pris par le temps, puisqu'il n'a pas pu faire sa troisième partie sur les années 80-86. Alors, c'est un petit peu dommage, d'ailleurs, parce que il faudra... c'est quand même le point un peu délicat, puisque 80-86, c'est la fin du mandat de Joseph Sangdols, hein, puisque en 1983, la municipalité d'Union de la Gauche est battue par Dubanchet. Et ça aurait été intéressant effectivement qu'il nous fasse un développement là-dessus. Mais bon, on pourra trouver sur le site du Grémoz la transcription écrite de l'ensemble de son intervention. Ça, c'est le premier point que je voulais dire. Le second point, donc, c'est par rapport à ce qu'a dit Daniel Durand, qui, je le rappelle, était lui-même militant communiste à la direction de la Fédération dans les années 70. Il y a deux choses qui me semblent tout à fait caractéristiques. Il a organisé son intervention sur deux directions. D'abord, une dimension, je dirais, politique, hein, la vision politique de ces années, qui porte sur dans quelle mesure cette période a pu consister à aboutir à un renouvellement des dirigeants issus de la Seconde Guerre mondiale. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que, effectivement, toute cette équipe qui s'installe dans les années 47 et surtout 50-53, c'est l'équipe de Théo Vialmassa, c'est l'équipe de Michel Ollagnier. Eh bien, cette équipe, elle va être remplacée par une équipe nouvelle dans laquelle on va trouver notamment Marc Bruyère, on va trouver Serge Gaillard et puis aussi Joseph Sangdols, qui est de la même génération que les précédents, que Théo Vial et que Michel Ollagnier, mais qui en fait n'avait pas de rôle politique jusque véritablement de premier plan jusque dans les années 70. Donc on assiste bien au moment où commence notre propos, c'est-à-dire à la fin des années 60, à un renouvellement des cadres de la fédération et un remplacement de cette génération qui avait encore connu le bassin stéphanois dans sa grandeur industrielle. Alors le deuxième propos de Daniel Durand, c'était la question de savoir comment agir pour préserver la dimension industrielle du bassin stéphanois. C'est-à-dire que c'est bien dans ces années 70 que le bassin stéphanois a connu les grandes vagues de licenciements qui vont s'accélérer à la fin des années 70 et au début des années 80. Et le propos de la fédération, c'était d'essayer d'apporter des réponses. Alors Daniel Durand montre bien le rôle qu'a pu jouer quelqu'un comme Marc Bruyère, qui a apporté un certain nombre de propositions à partir des années 72-73. Il montre aussi le lien qu'il y a entre cette préoccupation de la fédération et puis à l'échelle nationale la mise en place du programme commun. Donc on est dans une phase, je dirais 72-76, et Jean-Paul, c'est quelque chose qui va qui doit t'intéresser, dans une phase où il y a des propositions de renouvellement économique face à un système capitaliste que l'on juge un peu au bord de l'essoufflement, et on pense que les propositions du programme commun seront le remède à tous les maux du bassin stéphanois.
Et d'ailleurs, dans toutes les manifestations de l'époque, alors on va dire les dirigeants de la CGT, n'oublient pas d'appeler à voter pour le candidat du programme commun ou pour les candidats de gauche aux futures élections.
Et alors en fait, ce qui est assez caractéristique, c'est que l'élection de Joseph Sangdols, de la liste de Joseph Sangdols en 77, s'inscrit dans cette dynamique qui est née au moment du programme commun. Et tout de suite après, à la fin de l'année 77, on a le blocage entre PS et PC sur la renégociation du programme commun. Et c'est dans le contexte des tensions croissantes entre le PC et le PS, tensions qui, d'une certaine manière, vont permettre, c'est hors de notre sujet, mais on peut le signaler au passage, vont permettre l'élection de Mitterrand. Mmh. C'est paradoxal, mais c'est comme ça. C'est dans ce contexte que, finalement, se déroule la municipalité, la mandature de Joseph Sangdols. Absolument. Avec toutes les crises qu'on connaît, notamment, alors quelque chose qui est récurrent, c'est la manifestation, c'est les manifestations pour Manufrance. C'est aussi les grandes manifestations sur la Loire veut vivre, hein, en décembre 1980. Et qu'est-ce qu'on entend, qu'est-ce qu'on voit à ce moment-là du côté du Parti communiste, de la Fédération du Parti communiste? Eh bien, on est quand même un peu surpris de voir que des propositions qui sont en fait des propositions, des béquilles ou des restaurations par rapport aux industries traditionnelles. C'est le charbon est un outil pour la Loire. C'est la défense à tout prix, en dépit des réalités qui sont tragiques pour les ouvriers, mais qui sont aussi
de Manufrance.
Voilà, de Manufrance et puis de la sidérurgie. Donc il y a une espèce de combat d'arrière-garde qui. Alors c'est pour ça que j'aurais aimé qu'on aille un petit peu plus loin, voir que si. Et quel débat avait pu traverser la fédération quand on pense qu'un homme comme Fitterman va devenir ministre par la suite et qu'on connaît l'évolution qu'il a connue. Il y a sans doute eu des gens qui n'étaient pas entièrement sur cette ligne, qui a un côté un petit peu passéiste, faut dire ce qui est. Le charbon, je ne suis pas sûr que c'était très réaliste de proposer le retour au charbon. Enfin voilà, cela dit, donc je vois ces informations, enfin, ces points qui sont traités par Durand aussi sur le plan politique. Et c'est le dernier point que je voudrais dire, il a eu cette expression, hein, comment faire face à l'écroulement des bastions. Alors, les bastions, ce sont des bastions industriels pourvoyeurs d'emplois depuis de longues années pour les Stéphanois, mais ce sont aussi des bastions du syndicalisme CGT et des cellules PC.
Donc, et si je peux me permettre de rajouter, et du syndicalisme CFDT également.
Oui.
Parce que bon, la CGT était plus forte, mais pour la CFDT, ça a été aussi très important dans ce qu'on a appelé la désyndicalisation.
Mais alors pour le PC, c'est quand même C'est toute sa base, c'est toute sa base politique, hein, quand on sait que, par exemple, il y avait plus de 20 sections PC, sections, je ne dis pas cellules, 20 sections du PC à la masse en 1945. Mmh. Et quand ces entreprises vont disparaître, c'est évidemment tout un vivier de militants qui disparaît.
Ouais.
Voilà, donc pour ce qui concernait Daniel Durand, mais bien sûr, on renverra les auditeurs à la fois à l'écoute de cette intervention et puis à consultation sur le site du texte intégral.
D'accord, et donc là on va faire une petite pause musicale en guise d'introduction pour notre prochain sujet, puisqu'on va parler un petit peu des élections municipales. Donc voilà, une petite chanson de René Binamé qui nous donne quelques mots sur le cirque électoral.
Tout va dépendre de la conjoncture, mais avec un peu de bonne volonté, ce gouvernement s'en sortira.
Indispensable à la prospérité du capital, on ne nous les servirait pas partout, à coup de fric, à coup de flic. Si le vote n'était pas le meilleur antidote contre nos grèves et nos révoltes, on ne nous la scènerait pas à tous les coups, à coup d'assemblée syndicale. N'était pas si propice à l'extension du marché, on ne nous le parachuterait pas en casque bleu, sac de riz à la main, mitraillette à l'épaule.
Clin d'œil de Frédéric, d'une part par rapport à l'actualité très proche de dimanche prochain, et d'autre part par rapport à l'intervention de Jean-Michel qu'on va diffuser maintenant, intervention de Jean-Michel qui était intitulée « La crise du bassin stéphanois et les campagnes municipales à Saint-Étienne ». C'est parti.
Bien, le 22 novembre 2013, France Inter diffuse en direct de Saint-Étienne plusieurs de ses émissions. Préparé à grand renfort d'annonces répétées durant toute la semaine, l'opération vise à évaluer la transformation d'un bassin blessé par la désindustrialisation. Dans son objectif de présenter, je cite Patrick Cohen, une ville qui a essuyé une période noire et qui semble renaître, la station a invité deux figures bien connues de ce renouveau, Bernard Lavillier et Hervé Révelli. Faut-il que cette ville soit à ce point figée dans son passé pour que des journalistes nationaux n'arrive à l'imaginer qu'à travers les lunettes de ses gloires anciennes. Depuis un demi-siècle, les hommes politiques locaux se débattent et se combattent sur le thème de la crise du bassin stéphanois et sur les remèdes possibles. Les mots de récession et de licenciement sont présents dans le débat avant 1973 et même avant 1968. Un malaise économique court au moins depuis les lendemains de la Seconde Guerre mondiale, souterrainement bâbord, mais de façon de plus en plus évidente au milieu des années 60. L'activité de plusieurs branches de l'industrie traditionnelle du bassin s'est réduite soit sous l'effet de décisions qui échappent au pouvoir local, charbonnage, sidérurgie, soit à la suite d'erreurs manifestes de dirigeants d'entreprises qui ont mal anticipé les mutations du moment, industrie du style, du cycle, pardon, et du textile. Dans le cadre chronologique fixé, 4 campagnes municipales ont été autant d'occasions d'évoquer cette situation de l'économie stéphanoise. 1965 représente sans doute la fin d'une époque. Depuis 2 ans, on sent les premiers craquements sérieux dans l'économie stéphanoise, alors que le pays est en pleine période dite des Trente Glorieuses. On a vu la fermeture de la SFAC et quelque chose qui est moins retenu, c'est quand même la fin de l'indépendance de la presse stéphanoise en septembre 1963. Un mouvement social qui retrouve une certaine puissance après le coup de massue qui a représenté l'échec des grèves de 1947 et 1948 et qui redémarre visiblement après la grève des mineurs de 1963. Enfin, c'est aussi l'incertitude sur l'avenir politique de la ville avec la disparition d'une grande figure, Alexandre de Freycinet. Quant à 1983, il s'agit aussi de la fin d'une époque. C'est le moment où la conscience que la crise, où la ville a pris conscience que la crise est maintenant une évidence, que disparaissent à cette époque les plus beaux fleurons de l'économie stéphanoise, ce qui est largement médiatisé par le cas de Manu France. C'est aussi la fin de l'ère du Rafour, qui renonce à se présenter contre son vainqueur de 1977 et s'associe à son adversaire historique Lucien Neuwirth pour patronner la candidature de son ancien premier adjoint François Dubonchet. C'est enfin l'expérience d'une action municipale de gauche unie et aussi les interrogations sur celle du gouvernement. Je vais donc un petit peu déroger à l'esprit général de cette journée en faisant un petit peu d'histoire politique. Tant pis pour les anciens, parce qu'il y en a beaucoup qui ont connu cette période, mais je vais quand même brosser un petit peu un tableau de la vie politique ou en tout cas des personnages qui comptent avant d'explorer un petit peu les campagnes. Alors le paysage politique, donc, il est bien sûr marqué par l'héritage d'Alexandre de Freycinet. Depuis 1947, la ville est dirigée par une alliance qu'on pourrait qualifier d'hétéroclite, conclue au lendemain de chaque scrutin, renouée au lendemain de chaque scrutin, et qui associe le Parti socialiste et ses filiaux, les radicaux, les chrétiens du MRP et les indépendants du CNI. C'est une sorte de mise en œuvre locale de la troisième force, avec quand même une nuance importante, qu'elle intègre des gaullistes, et ce, dès le début du RPF, non pas bien avant 1952. Si les frontières ont pu bouger, la tête en est demeurée Alexandre de Freycinet, figure unique dans l'histoire locale, par sa capacité à réunir des majorités étonnantes et à capter de larges sympathies. En raison de l'application depuis la libération du suffrage proportionnel, le conseil municipal comprend toujours une forte minorité communiste, de l'ordre d'un tiers environ. Présence qui explique en ces temps de guerre froide la pérennité de l'alliance que je viens d'évoquer. Le maire, donc ancien avocat, a été le défenseur des syndicalistes victimes de la répression patronale, grève de Manu France en 1937, grève générale du 30 novembre 1938, ce qui lui a valu d'être étroitement surveillé durant la guerre, puis déporté à Mauthausen. C'est un passé qui inspire respect, voire l'admiration dans les milieux CGT et PCF, et qui contribue sans doute à sa popularité. Les 3 mandats d'Alexandre de Freycinet, deuxième point que je voudrais développer ici, correspondent à une activité municipale intense, destinée à rattraper le retard accumulé depuis les années 1880 dans les domaines de l'urbanisme, du logement ou des infrastructures, sans que la question du devenir de l'économie locale soit vraiment posée. Quand il s'achève, en 1964, 2 événements représentent le début de mon propos plus direct. D'abord la mort d'Alexandre de Freycinet, le 10 décembre 1964, qui pose de fait la question de son successeur. On va voir qu'elle n'est pas simple. Et ensuite, l'autre élément important, l'instauration quelques mois auparavant, le 27 juin 1964, du scrutin majoritaire à 2 tours, l'électeur ne pouvant désormais plus voter que pour une liste complète, sans adjonction, suppression de nom ou modification de l'ordre. La liste arrivée en tête, à la majorité absolue au premier tour ou à la majorité relative au second, emportant tous les sièges. C'est donc la fin des alliances, post-scrutin et l'obligation de trouver un chef de file. L'élection de 1965, c'est la mise en place d'un nouveau paysage politique. Et ce qui est assez étonnant dans cette élection, c'est qu'elle voit s'affronter 4 membres de l'ancien conseil municipal. 4 figures qui représentent une palette un petit peu particulière de notre vie politique, celle de Rémi Agnino, d'abord, associé au maire défunt depuis 1948. Il a dirigé le bureau d'hygiène, a été un défenseur actif de la création d'une université à Saint-Étienne, seule grande ville de France à en être dépourvue dans les années 50. Il s'inscrit dans la continuité du maire défunt, affirmant vouloir, je cite, « poursuivre l'œuvre de reconstruction et de rénovation entreprise depuis la Libération ». Et cette œuvre, il la poursuit aussi en constituant une liste dans laquelle on trouve des socialistes, des MRP, des radicaux et des CNI. Le deuxième personnage, Lucien Neuwirth, a été également associé à Alexandre de Freycinet depuis 1947. Et il est devenu très proche de lui lorsqu'en 1953, le maire sortant a affronté la fronde de deux dissidents du RPF, à savoir Jean Neuchet et Michel Durafour. Mais en 1959, c'est lui qui est devenu dissident et qui a présenté sa propre liste contre le maire. À cette date, bien sûr, il est devenu, vous le savez, un des piliers du nouveau régime dans la région, élu député UNR en 1958, réélu en 1962. Il apparaît comme le représentant du pouvoir et de sa politique. Le troisième personnage, c'est Michel Durafour, premier adjoint durant le mandat 47-53, qui a tenté de déboulonner Alexandre de Freycinet en 53, qui s'est réconcilié avec le maire en 1959 et qui est donc devenu premier adjoint. Et il va, d'une certaine façon, profiter du décès d'Alexandre de Freycinet, puisque en tant que premier adjoint, à quelques mois des élections prévues pour mars 1965, eh bien, le ministre de l'Intérieur, Roger Frey, lui donne pour mission d'assurer l'intérim jusqu'aux élections et il va largement en user pendant la campagne. Enfin, la quatrième figure, Michel Aulagnier, un des dirigeants de la fédération communiste depuis 1953, c'est le dirigeant de l'opposition communiste au conseil municipal. Et en 1965, il a réussi à bâtir une liste d'union, non pas avec le PS, mais avec le PSU, Huguette Bouchardot, Marcel Pierre, André Garnier et Pierre Gallon, qui était avec nous ce matin. Et cerise sur les gâteaux, si je puis dire, pour les gens qui s'intéressent un peu à l'histoire du Parti communiste, il a intégré Claudius Buard, ancien premier adjoint du maire de la Libération, qu'il avait contribué à faire mettre sous la touche en 1953. Alors, les facteurs d'évolution de la période, je les rappelle rapidement, mais on en a vu plusieurs ce matin. Bon, bien sûr, pendant toute la période qui m'intéresse, il y a les retombées des événements de 68, la conclusion du pacte de programme commun en 72, la rénovation du Parti socialiste entre le congrès d'Épinay et les assises du socialisme, qui est traduite par un rééquilibrage des résultats entre Parti communiste et Parti socialiste, l'unification de la droite non gaulliste avec la création de l'UDF en 76, les aléas du mouvement gaulliste, la victoire de François Mitterrand aux élections présidentielles de 81 et enfin la montée des déceptions et des oppositions à la politique de son septennat qui se concrétise par les échecs électoraux lors des municipales de 1983. Bien sûr, je n'ai pas le temps de développer tout ça, et c'est juste l'arrière-plan que je voulais mentionné ici. Alors, comment sont abordées les questions économiques et plutôt la question de la crise dans les campagnes électorales? À vrai dire, c'est assez minime quand on regarde les professions de foi. Les différents aspects de la gestion de la commune, les écoles, l'approvisionnement, l'eau et la couverture du furan tiennent beaucoup plus de place dans les débats. Ou, par exemple, si je remonte un petit peu en arrière, en 1959, il y a un des points de la profession de foi du Parti communiste qui réclame l'interdiction du transport du charbon dans les rues parce que ça crée trop de poussière. L'état des trottoirs, enfin voilà, c'est des choses qui sont quand même, qui tiennent la majorité des professions de foi. La perception d'une économie en crise est plus ou moins nette selon les campagnes, la conjoncture ou la position du candidat. Alors, pour les quatre campagnes qui m'intéressent, je dirais que c'est dès la campagne de 65, elle est quand même présente. Agnino, par exemple, dit qu'il convient d'écarter la menace de la récession et du chômage. Durafour emploie aussi ce mot de chômage, tandis que Michel Aulagnier revient sur les récents licenciements de la SFAC pour les attribuer à la politique antisociale du pouvoir gaulliste. Et évidemment, Lucien Neuwirth, pardon, qui endosse cette politique gaulliste, lui se limite à des formules assez vagues du genre « il faut investir pour permettre à nos industries de se développer ». 71 est une année où la situation est a posteriori, quand on lit par exemple certains travaux qui ont été faits par le Crésal justement, la plus favorable de toute la période. Les mots de crise, chômage, licenciement n'apparaissent pas dans les professions de foi. C'est plutôt à l'intérieur de la gauche qu'il y a des choses intéressantes à noter. Le PC, allié au PS cette fois-ci, s'engage à favoriser le renouveau économique, mais en réclamant une planification démocratique que seule une gauche au pouvoir pourrait mettre en œuvre. Quant au PSU, il propose d'agir en faveur du développement économique de la cité et place comme priorité la dénonciation du système économique responsable de la dégradation de la vie urbaine, conséquence de la loi du profit maximum. On sent le langage post-68 là, le marxiste qui revient en force. Et curieusement, Durafour et Neuwirth sont assez d'accord, alors qu'ils sont opposés encore une fois avec deux listes différentes. Et ils sont assez d'accord pour annoncer qu'ils vont créer 15 000 emplois, sans autre précision. En 77, le maire sortant, Durafour, donc élu en 65, réélu en 71, ministre du gouvernement Barre, est fragilisé par la brusque montée du chômage. Et la liste de l'Union de la gauche en profite d'ailleurs pour retourner le label de la liste du maire sortant, qui s'intitulait « Mieux vivre à Saint-Étienne ». La gauche pose cette question, peut-on mieux vivre à Saint-Étienne sans emploi? On sait comme la campagne a été dramatisée par la situation de l'entreprise Manifrance. L'équipe PCPS et son nouveau chef de file, Joseph Sangdols, ex-secrétaire général de l'UDCGT, appellent à défendre et rénover le potentiel industriel stéphanois. Pour trouver le mot crise, il faut aller chercher la profession de foi d'une liste d'extrême gauche, lutte ouvrière LCR, qui met en cause le plan Barre qui consiste à faire payer la crise aux travailleurs. Oui. Quant à 1983, année de la revanche, c'est bien sur un ton beaucoup plus alarmiste, puisque l'on voit Dubanchet, principal challenger du maire sortant, soutenu par l'UDF et l'URPR, déclarer « Nous ne supportons pas de voir Saint-Étienne dépérir. La question du chômage est devenue centrale. » Dubanchet parle d'hémorragie et Grossman parle d'expérience catastrophique. Donc il y a bien sûr des arrière-plans, des arrière-pensées politiciennes. Alors, sur le plan plus pratique, je dirais que, et ce sera mon dernier point, il y a trois types de solutions que l'on peut dégager des professions de foi. D'abord, les propositions techniques, qui portent surtout sur les infrastructures et pointent le retard de la région stéphanoise. Donc la question de l'autoroute, du logement, de l'enseignement supérieur et technique, et puis la question de l'organisation de la région. Il faut créer une région stéphanoise. En 1965, Durafour aborde déjà cette question. Et il dit, pour dénoncer la politique gaulliste, le gouvernement relègue Saint-Étienne au rôle de banlieue de Lyon et affirme que tout se passe comme si on envisageait en haut lieu d'envoyer les Stéphanois travailler à Lyon, ce qui est déjà un pinsum, mais pire encore, Vénissieux ou Saint-Fons. En 83, la dissidente gaulliste Martine Victoire proclame que les Stéphanois doivent reprendre leur destin en main et ne plus être satellisés par Paris et Lyon. Deuxième type de proposition, les propositions stratégiques qui sont surtout relatives à l'industrialisation. Et là, on est bien obligé de constater qu'il y a en gros tous les candidats qui reviennent en permanence sur le thème expansion des industries traditionnelles. En 71, Michel Durafour propose la création d'un centre artisanal correspondant à l'une des vocations de la métropole stéphanoise. Neuwirth prône une industrialisation bien conduite. Et il faut chercher plutôt du côté d'André Garnier pour trouver des propositions de la gauche, notamment en 65 et en 71, pour trouver des choses un petit peu plus, comment dirais-je, pensées et réfléchies. Il y a sans doute ici, quelque part, quand en 1965, je vais quand même m'arrêter sur ce point, la liste PC-PSU
prône l'installation de nouvelles industries orientées vers les productions clés de l'économie moderne. En ajoutant, le conseil municipal ne doit pas reculer devant les oppositions du patronat local. Il y a quelque chose qui me semble renvoyer à une vieille histoire qui est celle de l'implantation de l'usine d'aviation en 1929 et de l'échec de cette implantation qui a sans doute laissé des traces à la fois dans le patronat et aussi dans la main-d'œuvre ouvrière stéphanoise, mais je n'ai pas le temps de développer plus profondément. Quant aux propositions tactiques, elles concernent surtout l'utilisation que, ou l'appoint ou l'appui que peuvent apporter les organisations syndicales à l'action de la municipalité. Là aussi, il y a une tradition qui ressurgit et que l'on voit notamment à l'œuvre pendant la municipalité de Joseph Sandels avec les grandes manifestations de soutien que l'on a évoqué ce matin. Donc si le thème de la crise industrielle du bassin stéphanois est bien présent dans le débat lors des différentes campagnes, si la prise de conscience est réelle chez les hommes politiques, l'unanimité est loin d'être acquise quand il s'agit d'identifier les causes et les responsabilités. Et les hommes politiques stéphanois, je pense qu'on peut dire qu'ils ont manqué d'audace et d'initiative. Les solutions envisagées et mises en œuvre sont souvent limitées à des réponses techniques qui n'ont pas vraiment empêché, on l'a vu, l'aggravation de la situation. Peut-être a-t-on attendu trop longtemps avant de les imposer, on l'a vu par exemple pour l'installation de l'enseignement supérieur, contribuant par le retard pris à forger l'image d'une région en panne d'innovation. Voilà, merci.
Oui, voilà, donc c'était l'intervention de Jean-Michel lors de la journée d'études du Grémos, donc du 29 novembre 2013. Donc nous allons faire une nouvelle pause musicale avant de commenter cette intervention. Donc là, on vous propose d'écouter une émission tirée donc du recueil Pour en finir avec le travail, recueil de chansons du prolétariat révolutionnaire sorti en 1974, dont on avait déjà diffusé un extrait la dernière fois. Et là aujourd'hui, bon, histoire de faire un petit contrepoint, voilà, parce qu'aujourd'hui on parle quand même beaucoup du parti communisme, ben, du coup, on va diffuser la chanson La Makhnovchina, écrite par Étienne Rodagil. Donc Étienne Rodagil, plus connu pour Alexandrie, Alexandra, plein d'autres chansons, Joe le taxi, mais voilà, c'était aussi un libertaire, enfant d'immigrés espagnols, et donc il a écrit les paroles de cette chanson en détournant donc une chanson bolchevique au départ.
Makhnovchina, Makhnovchina, tes drapeaux sont noirs dans le vent, ils sont noirs de notre peine, ils sont rouges de notre sang, ils sont noirs de notre peine, ils sont rouges de notre sang.
Par les mots et par les plaines, dans la neige et dans le vent, à travers toute l'Ukraine, se levait.
À l'automne, la Makhnovchina les avait jetés au vent. À l'automne, la Makhnovchina les avait jetés au vent.
Makhnovchina, Makhnovchina, tes drapeaux sont noirs dans le vent, ils sont noirs de notre peine, ils sont rouges de notre sang,
ils sont noirs de notre peine, ils sont rouges de notre sang. L'armée blanche de Denikine est entrée
Magnochina l'a dispersé dans le vent. Mais bientôt la Magnochina l'a dispersé dans le vent.
Magnochina, Magnochina, armée noire de nos partisans qui combattaient en Ukraine contre les rouges et les blancs.
Qui combattaient en Ukraine contre les rouges et les blancs.
Magnovchina, Magnovchina, armée noire de nos partisans qui voulaient chasser l'Ukraine à jamais tous les tyrans.
Qui voulaient chasser l'Ukraine à jamais tous les tyrans.
Magnovchina, Magnovchina, tes drapeaux sont noirs dans le vent,
ils sont noirs de notre peine, ils sont rouges de notre sang, ils sont noirs de notre peine, ils sont rouges de notre sang.
Alors, on ne peut pas douter que Frédéric ait le sens de l'actualité, puisque il y a, par rapport aux événements actuels qui viennent en Ukraine, cette chanson vient à point nommé. Alors, si vous, pour les auditeurs, vous avez vu qu'il était question de trois camps dans cette chanson. Les blancs, les contre-révolutionnaires russes, représentés par Denikin, les rouges, qui sont les bolcheviks dont les chefs sont Lénine et Trotsky à l'époque, et les Noirs de Makhno, dirigeant anarchiste ukrainien, qui va... vous savez que cette histoire s'est terminée par la victoire des bolcheviks. Voilà. Oui. Merci Frédéric pour ce retour. Alors, nous, on va revenir maintenant avec Jean-Michel sur son intervention. Et peut-être la première question que je voulais lui poser, maintenant qu'il l'a réécouté, mais il avait dû déjà se réécouter avant, est-ce qu'il y a des points, Jean-Michel, que tu auras envie de rajouter maintenant, ou bien c'est dans le fil de la discussion qu'on les prendra?
Je pense que l'essentiel, on va le prendre dans le fil de la discussion, mais moi, je pense qu'il y a trois points qui sont importants, mais je te laisserai y revenir. C'est l'université, la question de l'urbanisme et la question de la constitution d'une région stéphanoise. Moi, c'est ce qui me semble, c'est ce qui m'a frappé... à l'exploration de ces 25 ans de vie politique stéphanoise et de débats dans le cadre des élections municipales. Si tu veux, je peux commencer par l'université quand même.
Vas-y.
L'université, j'ai insisté sur le fait que cette université est venue très tard. J'oserais pas dire trop tard, parce que ça serait quand même pas très fair play vis-à-vis de nos collègues qui enseignent aujourd'hui.
Tu précises.
Eh bien, disons que dans les années 61, 62, 63, il y a, à l'initiative de la municipalité, mais alors ça c'est très intéressant quand même, c'est presque un autre débat, une autre étude qu'il faudrait mener, avec un large accord de l'ensemble des acteurs politiques. Par exemple, Michel Ollagnier, qui représente l'opposition du PC au conseil municipal, a totalement soutenu le maire Alexandre de Fraissinet. Donc il y a une action qui est menée pour créer des collèges universitaires juridiques, collèges universitaires scientifiques, collèges universitaires littéraires. Elle est soutenue par Durafour aussi, qui a été aussi en pointe dans ce domaine, et par Rémi Anino. Donc il y avait vraiment une unanimité tout à fait évidente à l'intérieur du conseil municipal. Ce que je dis simplement, c'est que c'est venu tard. Et il y a une espèce de tradition qui s'est enclenchée depuis le 19e siècle, que les enfants des élites, hein, enfin, ou les futures élites, prennent le chemin de Lyon pour aller faire leurs études. Et je dois dire, pour avoir enseigné pendant 20 ans au lycée du Jean Monnet, que c'est quelque chose qui existe encore. Parce que même si les enfants ont le choix aujourd'hui entre l'Université de Lyon et l'Université de Saint-Étienne, souvent, les mieux diplômés, ceux qui réussissent le mieux, choisissent Lyon. Mmh. Ce qui indique que cette université stéphanoise, elle a eu énormément de mal à acquérir une légitimité. Elle est toujours plus ou moins sa légitimité est toujours plus ou moins suspectée. Et ça, c'est extrêmement dommage. C'est extrêmement dommage parce que, effectivement, ça crée dans les milieux dirigeants stéphanois une espèce de, j'oserais presque dire, de médiocrité ambiante, un manque d'ambition, un manque de réflexion. Il y a quelques individualités, hein, on peut les pointer, mais elles sont assez rares. Et même quand il y a des individualités fortes, moi je pense par exemple à Louis Soulier ou à Alexandre Desfraissinettes, elles ont tendance à se mouler dans l'image d'un Stéphanois un peu, bon, je ne dis pas bossaigne, mais enfin un petit peu, voilà, faut pas trop avoir d'ambition. C'est quelque chose qui, à mon avis, a pesé sur l'esprit public stéphanois. Voilà ce que je voulais dire par là.
Alors, on peut peut-être faire le lien par rapport à ce que tu dis avec l'idée de la constitution d'une région stéphanoise et de la dépendance de Saint-Étienne par rapport à Lyon. Si je me permets une référence, par exemple, Jacques Schnetzler, en 73, dans son bouquin sur l'économie de la région stéphanoise, disait « Est-ce que l'avenir de Saint-Étienne, ça ne va pas être de devenir une banlieue de Lyon ?»
Oui, ça, c'est quelque chose qui est évoqué dans les campagnes municipales. On a vu Anino le dire déjà en 1965. Mais moi, je pense qu'il faut voir les choses de deux façons. Je veux dire qu'il y a, d'abord une compétition entre les communes qui est extrêmement préjudiciable et qui a été préjudiciable jusqu'à la fin des années 90, hein, jusqu'à ce que finalement Thiolière fasse vraiment passer l'idée d'une agglomération qui a été extrêmement préjudiciable au développement de la ville, une compétition qui fait que les communes se sont battues pour avoir telle ou telle implantation. Et puis on a bien vu ce qui s'est passé entre Andrézieux et Saint-Étienne dans les années 70-80. Donc ça, c'est une espèce d'esprit de clocher qui est très ancien, puisque, par exemple, quand on rattache les communes suburbaines à Saint-Étienne en 1856, hein, Montaut, Valbenoite, Beaubrun, Outre-Furan, c'était des communes indépendantes. Et quand on regarde un plan de Saint-Étienne, on est complètement stupéfait de voir comment la ville de Saint-Étienne était complètement enserrée par ces communes. Donc il y a eu un décret impérial en 1856 qui a créé, qui a rassemblé ces communes, qui a donné une espèce de bouffée d'oxygène à Saint-Étienne. Mais dans les années 60-70, évidemment, c'est à une autre échelle qu'il faut raisonner. Donc ça, c'est le premier point. Et il y a eu énormément de blocages, de disputes, de clochers dont on sent encore les effets, y compris entre, pas simplement entre Saint-Étienne et les communes suburbaines, mais entre Saint-Étienne et entre les communes elles-mêmes. Bon. Et puis, le deuxième point, c'est Saint-Étienne et Lyon. Alors, il y a une espèce de fantasme. On alterne sans arrêt entre une espèce de fantasme. On va dépasser Lyon. Alors, ça se traduit dans le football, bien sûr, mais pas seulement, loin de là. On va dépasser Lyon. Au début du XXe siècle, ça se sent très bien. Presque, on est en train de rattraper Paris. Et puis, à d'autres moments, une espèce de sentiment d'infériorité, de culpabilité, de soumission par rapport à Lyon. Au lieu d'essayer de voir une relation équilibrée entre les avantages et les inconvénients des uns et des autres. Ce qui me frappe, les deux aspects peuvent être rassemblés. À Lyon, il y a la création de la Courly, c'est à la fin des années 60, début des années 70, et à Saint-Étienne, on attend 30 ans pour arriver au même résultat. Donc il y a un retard, un effet retard qui pèse, à mon avis, sur le développement de la ville. Ça, c'est le... Alors le troisième point, peut-être
Sur l'urbanisme.
Sur l'urbanisme. Alors moi, ce qui me frappe, c'est l'énorme transformation de la ville, et tout le monde le signale, engagée par Alexandre de Frissinette et prolongée ensuite par Antoine Durafour. Incontestablement, il y a eu un effort fantastique. Quand on le voit à l'époque, pour les gens, pour les populations stéphanois, ça signifie accès à la modernité dans le logement, hein, l'eau courante. Je rappelle quand même qu'il y avait encore énormément de femmes qui descendaient dans les années 50 chercher de l'eau aux fontaines. Je dis de femmes parce que c'était les femmes qui faisaient ça.
L'illustres dans ta thèse d'ailleurs, voilà. Ça, cet aspect-là.
Tout
hein.
à fait, tout à fait. Et puis le confort avec le chauffage central, etc., etc. Alors, il y a un énorme effort. On est ici dans un des quartiers qui a constitué le lancement de cet effort. Et en même temps, alors ça, c'était quelque chose sur lequel je réfléchis en ce moment. En même temps, il y a pas un retard, mais une espèce de chance qui est manquée, à mon avis. Si je compare à ce que fait, par exemple, Claudius Petit à Firminy à la même époque, dans les années 50 et 60. Alors, on peut critiquer Firminy-Vert, mais n'empêche que c'est un quartier qui a de la gueule encore aujourd'hui. Et qui est accepté, enfin qui est bien vécu par les gens qui y habitent. Et il y a eu une véritable réflexion. Tandis qu'à Saint-Étienne, à part Beaulieu, en 50-52, on lance un vrai programme d'urbanisme. Et puis après, on va faire. C'est plus le maire, c'est plus les urbanistes, j'allais dire, qui ont une réflexion un peu poussée sur. Les besoins et les attentes des gens qui discutent avec eux, mais ce sont les promoteurs et ce sont les fabricants, hein, c'est les stribiques qui mènent la danse à l'époque de Durafour. Et ça nous donne quoi? Ça nous donne Centre 2, ça nous donne Bergson, où on a quand même un espace énorme qui a été complètement restructuré et on a construit des choses qui sont pas franchement palpitantes, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc ça, c'est, je pense, voilà, c'est un manque de réflexion à long terme. Alors ça peut nous amener sur la question.
Il y a un autre exemple. Tu parlais d'Andrézieux Boutéon. Alors moi, ce qui m'a frappé dans la recherche que je mène là, dans les années 70, c'est à quel point les syndicats, et particulièrement la CFDT, font des interventions sur Andrézieux Boutéon et disent, vont à la préfecture et en reviennent en disant, de toute façon, on ne nous écoute pas. Ils n'ont pas prévu les logements ou ils n'ont pas prévu les voiries ou c'est un peu ce que tu dis, cette façon
au jour le jour,
hein,
au jour le jour,
un peu au jour le jour, absolument,
et au mépris effectivement la campagne de 1971, enfin 65 à 71, on le sent bien, au mépris de ce que peuvent dire les gens. La construction de l'autoroute a été un véritable désastre. Parce qu'elle coupe en deux des quartiers populaires et elle traverse des espaces verts, des espaces consacrés au sport. Il y avait des terrains de football, etc. Alors qu'on aurait pu envisager de construire cette autoroute sur le tracé qui était prévu, dont on discute aujourd'hui, mais c'est devenu beaucoup plus aléatoire parce que il y a eu beaucoup de constructions qui se sont faites, mais le tracé de la 45, je rappelle quand même que c'est le tracé prévu en 1935.
Ouais.
Et si on l'avait réalisé dans les conditions prévues, on aurait débouché aux alentours de la Fouillouse à une époque où il n'y avait rien du tout. Et c'était quelque chose de tout à fait faisable. Il n'y aurait pas eu l'opposition qu'il y a aujourd'hui. Mmh. Et on comprend que les gens qu'on a laissé construire sur ces bords soient aujourd'hui remontés. Donc voilà, c'est cette espèce de bricolage, en quelque sorte, qui m'a frappé dans la discussion.
D'accord. Alors, les autoroutes... C'est quand même un point qui se retrouve, alors qui est partagé par tout le monde. Je veux dire, la CFTC en 64, après la crise de la SFAC, dit qu'il faut relier Saint-Etienne au Rhône, à Lyon, etc. Et alors, ça m'amène à la question que j'avais envie de te poser. Dans les solutions techniques, c'est une solution technique, qu'est-ce qui a été fait et est-ce que ça... Et quel effet ça a pu avoir ?
Tu disais, les solutions techniques proposées par les municipalités.
Fois municipalité, ouais. Mais il y avait consensus là-dessus sur la construction de l'autoroute, par exemple.
Sur l'action des municipalités, je crois que ce qui domine toute la période, c'est quand même l'aménagement des zones industrielles. C'est vraiment quelque chose de caractéristique qui a dû frapper. Alors je pense par exemple quelqu'un comme Durafour, qui a grandi dans le quartier de Badouillère, dont les grands-parents étaient eux-mêmes des graveurs, des armuriers, des polisseurs, a bien connu ce quartier où les ateliers étaient complètement mêlés aux habitations, où on avait une espèce de fabrique de croissance anarchique de la ville. Et bien effectivement, l'idée qui prévaut, c'est pas une idée stéphanoise, mais elle est particulièrement frappante à Saint-Étienne, c'est sortir, enfin vraiment séparer les lieux du travail des lieux d'habitation. Et alors on a l'opportunité, bien sûr, de la disparition des mines et donc tout l'espace de l'Ouest, tout l'espace de la Chazotte, qui sont libérés et qui permettent de l'aménagement de ces zones industrielles. Alors là, il y a eu un vrai travail effectivement qui a été fait. Mais encore une fois, si on l'avait fait dans le cadre d'une véritable agglomération, on n'aurait pas eu les problèmes qu'il y a eu par rapport aux impôts, par rapport aux taxes diverses, et qui ont fait une espèce de concurrence entre les communes pour attirer telle ou telle entreprise.
Alors je prends un autre point. D'un point de vue historique, est-ce que tu peux revenir, parce que peut-être des gens ne savent plus très bien, sur cette histoire de l'usine d'aviation ? C'était quand ? Comment ?
Oui, c'est à mon sens, et je crois que Antoine Vernet est assez d'accord avec moi là-dessus, c'est à mon sens le vrai tournant de l'histoire industrielle stéphanoise. Donc on est à la fin des années 20, et au lendemain de la Première Guerre mondiale, où commence à se développer une vraie industrie de l'aviation, dans le souci de mettre cette industrie à l'abri d'une éventuelle invasion, ou des effets d'une éventuelle invasion, le ministère de l'Industrie envisage une implantation d'une usine de construction de moteurs, Gnome et Rhône, à Saint-Étienne. Il y a plusieurs raisons. Il y a beaucoup d'ouvriers qui sont qualifiés pour être embauchés dans cette entreprise. Il y a des locaux, puisque la société de la Chalet-Assière a fermé récemment. Et donc, il y a des locaux, il y a des espaces qui sont libres vers la Chalet-Assière. Il y a des terrains. Les contacts sont pris. Le maire Louis Soulier suit tout à fait le dossier. On vend un terrain à Gnome et Rhône, et puis intervient une histoire extrêmement compliquée, que je ne peux pas détailler ici, une histoire par rapport aux biens immobiliers. On est en 1929. Antoine Durafour, qui est dans la majorité de Louis Soulier, mais qui vise depuis un certain temps la mairie, alors est-ce qu'il l'a fait exprès ? On peut le penser raisonnablement. Fait éclater un soi-disant scandale. Je ne suis pas du tout objectif dans cette affaire, parce que je pense qu'effectivement, c'est tellement grave que je soutiens complètement Soulier, malheureusement, mais il n'est pas allé assez loin, à mon avis. Durafour fait éclater un scandale en disant qu'on n'a pas vendu les terrains assez chers à Gnome et Rhône. Et donc, ça crée une telle crise politique que Louis Soulier est obligé, enfin, est révoqué par le ministre d'abord, ministre de l'Intérieur. Il y a des élections au mois de juillet 1930. Et ces élections, eh bien, on voit les deux partenaires des années 20, Durafour et Soulier, face à face. Durafour emporte l'élection, c'est comme ça qu'il devient maire, mm-hmm. puisqu'il n'a été maire que deux ans, de 1930 à 1932. Et l'affaire est totalement enterrée. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire ? Enfin, l'opinion que l'on peut en tirer, et je disais qu'Antoine était assez d'accord avec moi là-dessus, c'est que il y a eu sans doute Durafour était dans cette affaire le porte-parole d'un patronat stéphanois malthusien qui ne voulait pas d'une entreprise de pointe, car ça risquait de provoquer une tension sur le marché du travail, ça risquait d'attirer des ouvriers particulièrement qualifiés et de faire monter le niveau général des salaires. Alors, il aurait été, à ce compte-là, le porte-parole des armuriers, des industriels du cycle et du textile. L'histoire ayant été faite que le gnome Hérode n'est jamais venu, est parti à Toulouse et a donné ce qu'on voit aujourd'hui, c'est-à-dire
Sud Aviation,
Airbus, etc. Donc on peut effectivement avoir pas mal de remords.
D'accord. Alors moi, ça m'évoque les revendications, tu parlais d'André Garnier, mais les revendications d'André Garnier et de la CFDT sur les industries de pointe qui ne sont jamais venues.
Je pense qu'André Garnier a tout à fait cet exemple à l'esprit quand il fait ses propositions en 65. Et toute la génération qui est aux manettes, enfin qui intervient dans ces années... dans ces années 60-70, elle a entendu parler, elle sait ce que c'est que cette affaire. Donc je pense que c'est quelque chose qui a... c'est un ratage majeur qui contribue à plonger la région stéphanoise dans ce marasme qu'on va voir s'accentuer dans les années 50.
D'accord. Alors, peut-être une autre remarque encore. Tu as parlé de Durafour et Durafour dans la campagne, enfin de Michel Durafour dans la campagne électorale de 1977. Oui. Michel Durafour qui devient le candidat du chômage, puisque à ce moment-là, il est ministre de l'Emploi. Mais est-ce que la situation ne va pas être la même d'une certaine façon pour Joseph Sanguedolz, qui effectivement avait dit, moi élu, il n'y aura pas de licenciement à main du France et il ne pourra pas tenir ça.
Oui. Mais c'est-à-dire que c'est bien sous le mandat de Sanguedolz que l'on voit que la crise en question est une crise extrêmement profonde, une crise structurelle. Et cette crise, le ministre Barre va essayer de la présenter aux Français telle qu'elle est, en disant un certain nombre de choses qui font mal, en parlant des canards boiteux, en disant qu'il n'allait pas soutenir telle ou telle entreprise, le fameux plan sidérurgie des 78-79. Il y a une accélération du processus de crise, ça c'est évident. Joseph Sanguedolz, bon, en plus, il n'est pas ministre, lui. Il n'est pas ministre, contrairement à Durafour. Mais quand les socialistes arrivent au pouvoir en 80, 81, 82, et qu'on se rend compte qu'il n'y a pas de solution miracle, évidemment, il va en subir le contre-coup. Ça, c'est sûr.
Bien. Et écoute, merci Jean-Michel.
Merci.
Merci Jean-Paul, merci Jean-Michel pour tous ce commentaire bien éclairant, là, retour sur la journée d'études du Grémos du mois de novembre. Donc cette émission va être rediffusée ce soir à 19h et demain à 8h. Sinon, vous pouvez retrouver le Grémos sur son site www.grémos.lot.net. Bon, on met à jour, pas forcément de façon très très réactive, mais on progresse. Donc vous pouvez retrouver les enregistrements, les retranscriptions de la journée d'études et les enregistrements des émissions. Et donc nous nous retrouverons pour une prochaine émission le 17 avril sur le 895 de Dio. Et je redonne la parole à Jean-Michel qui me fait signe qu'il y a une petite annonce à faire.
Juste pour annoncer vendredi 21 et samedi 22, les rencontres autour des cinémas d'Afrique qui permettront aux Stéphanois de sortir un petit peu de l'espace local et qui leur permettront de voir que l'Afrique a non seulement une histoire, contrairement à ce que disait un ancien président, mais aussi un présent et un avenir.
Merci, au revoir.
Merci.
La Rock'n'Beat Party le 26 avril de 20h à 5h du matin. Avec Geza Feldstein, Breton, Kavinsky, Klaxons, Salut C'est Cool, Baker Matt, Carbon Airways, Sarah W. Babson. Du 22 au 27 avril, toutes les musiques se donnent rendez-vous à Bourges pour fêter le printemps. Toutes les infos sur www.printemps-bourges.com et sur ferrarock.org.
Radio Dio, partenaire de la soirée Rencontre autour du documentaire Braddock America, ce mardi 25 mars au cinéma.